Alors Laure Battier, bonjour.
Bonjour.
Tu vas nous dire plus exactement qui tu es, mais nous nous rencontrons aujourd'hui à la fin de la présentation de l'autobiographie d'Emma Goldman, un travail titanesque. Hein. Tu en es, toi, la traductrice, c'est bien cela?
Non, moi je suis la co-traductrice.
La co-traductrice, exactement.
Voilà, on est deux traductrices, donc moi et Jacqueline Royce. Voilà.
Très bien. Alors pour commencer, j'aurais bien voulu savoir de quelle manière est-ce que tu as, par contumace, rencontré Emma Goldman? Comment ceci est survenu? À quel moment de ton existence, de ta trajectoire?
Alors, moi, j'avais lu... c'est marrant parce que moi, je suis génération 68, hein, donc vous pouvez bien comprendre. Donc, j'avais toujours entendu parler d'Emma Goldman, mais ce n'est que dans les années, on va dire, 2000, ben, une fois j'étais aux États-Unis, que j'ai trouvé son livre, j'ai trouvé le volume 2 d'Emma Goldman. Voilà, je l'avais acheté. Et donc, je l'avais lu, je l'avais absolument dévoré. Et ce qui m'avait beaucoup particulièrement intéressé, c'était toute la question sur le mouvement aux États-Unis contre la guerre, parce que j'avais appris énormément de choses en lisant ce tome 2. Et puis après, au hasard d'un voyage à Londres, j'ai trouvé dans une librairie anarchiste à Londres le tome 1. Voilà, donc j'ai lu le tome 1 après le tome 2. Et le tome 1, j'ai été complètement, parce qu'elle revient sur sa vie familiale et tout ça, j'ai été complètement emportée par le tome 1, voilà. Et en 2013, à la fin 2013, est paru un livre à l'échappée, aux éditions L'Échappée, qui s'appelle « La Révolution fut une belle aventure », qui est un récit autobiographique de Paul Matic, que j'ai co-traduit, encore une fois, avec un ami donc, qui vit en Allemagne, qui s'appelle Marc Geoffroy. Et voilà, j'avais traduit donc, de l'allemand en français. Et on avait très bien travaillé avec les éditions L'Échappée. C'est vraiment une maison d'édition avec qui on travaille. C'est le travail collectif, ils savent ce que c'est. Avec toujours beaucoup de respect pour les gens avec qui ils travaillent. Et on avait très bien travaillé ensemble. Et donc l'éditeur de L'Échappée me dit, alors, est-ce que tu as des projets? Et moi, sans me penser un seul instant tout ce que ça allait signifier comme travail, je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien traduire les mémoires d'Emma Goldman. Eh bien, bon, je venais de prendre ma retraite, hein, donc voilà, j'ai le grand privilège d'être une génération qui a encore une retraite, donc il faut se bagarrer pour sa retraite. Donc j'avais ma retraite, donc je savais voilà, que je pouvais consacrer du temps pour le faire. Et voilà, donc j'ai proposé, et peu de quelques mois après, et l'éditeur m'avait dit à ce moment-là, mais tu sais, c'était le premier livre qu'on voulait éditer quand on a fondé la maison d'édition, mais évidemment qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer une traductrice au prix où il fallait la payer. Ce n'était pas possible pour un petit éditeur. Donc il m'a proposé quelques mois après, voilà, un petit contrat, bon, pour faire donc la traduction. Et c'est là, voilà, que j'ai contacté donc Jacqueline Royce, qui, elle, est américaine, mais qui vit depuis 40 ans en France, et qui, elle est traductrice professionnelle, mais de français en anglais. Et moi, je ne suis pas du tout traductrice professionnelle, mais voilà, toutes les deux, ben voilà, on s'est mis au travail avec l'aide donc de deux autres amis qui ont relu, corrigé avec nous les chapitres. Voilà.
Et quelle est, toi, ta position, ta trajectoire, celle qui t'a amené dans ta vie à t'intéresser à ces valeurs-là? Est-ce que peut-on dire de toi que, eh bien, d'abord, c'est une militante anarchiste qui lit et puis qui veut partager des expériences, entendre, lire des aventures de personnes qui l'ont précédé, des personnes telles que Emma Goldman, ou est-ce autre chose? Sont-ce d'autres accidents de la vie qui t'ont mené sur cette piste-là?
Ben, moi, en 1968, j'ai 17 ans. Je suis élève d'un lycée dans le sud de la France, à Perpignan. Le lycée est en grève pendant 2 mois. La ville est en grève. Il y a des manifestations partout. J'entends parler des conseils ouvriers, je veux dire, ma formation politique, mon éveil politique a commencé à ce moment-là. Voilà, donc à l'époque, donc j'étais plus ou moins dans ce qu'on appelait le milieu anarchiste, qui était un milieu très, voilà, très large. Et puis après, dans les années, à la fin des années 70, je suis plutôt devenue conseilliste, qu'on appelait le milieu marxiste libertaire. Voilà, donc je suis devenue conseilliste pendant plus de 20 ans. Voilà. D'accord. Donc je navigue autour de ce milieu.
Très bien, très bien.
Donc alors, les idées d'Emma Goldman, je les partage évidemment.
C'est ça. Je comprends bien. Alors, on l'a pas dit, le titre c'est « Vivre ma vie, virgule, sous-titre, une anarchiste au temps des révolutions. Et puis, c'est un livre singulier, c'est-à-dire que des biographies, on en connaît plusieurs, mais celle-là est l'intégrale. Voudrais-tu nous dire quelques précisions par rapport à ça? Parce qu'effectivement, tu en as parlé tout à l'heure pendant la présentation, et moi-même, le souvenir que j'ai, d'ailleurs, dont j'ai retrouvé quelques morceaux à l'intérieur, c'est l'épopée de ma vie.
L'épopée d'une anarchiste.
Pardon, l'épopée, Emma Goldman, l'épopée d'une anarchiste. Alors qu'en est-il? Est-ce là le, comment dire, la somme ou l'intégrale de son autobiographie?
Oui, ce qui vient de publier par l'édition L'Échappée, c'est l'intégrale de son autobiographie. Le livre dont tu parles, l'épopée d'une anarchiste, qui a pris après d'autres titres, hein, qui a été réédité plusieurs fois par plusieurs éditeurs, c'est paru en 1979 aux éditions Hachette. Et en fait, les deux traductrices le disent elles-mêmes, ce n'était qu'une adaptation de son autobiographie. C'est-à-dire, c'était une version vraiment très, très, ça a été une version très remaniée, très abrégée de son autobiographie. Voilà.
D'accord.
Donc, nous, on peut dire que c'est la première version intégrale en français. Mais il existait, par contre, on est en retard, parce que en Italie, en Allemagne, en Espagne, il existe donc une version intégrale de ses mémoires.
Mmh.
Et voilà, donc on est en retard. Et je viens de voir d'ailleurs au CIRA aussi qu'il existe une version en russe de l'intégralité de ses mémoires. Donc on est en retard puisque c'est en novembre 2018 que ça paraît en France.
Alors, on ne va pas trop aborder ce qu'on trouve dans le livre. On va inviter les gens à l'acheter et puis à le lire eux-mêmes. Mais tout de même, une petite question aux alentours. À quel moment et pourquoi Emma Goldman décide-t-elle d'écrire son autobiographie? Parce qu'elle est, donc c'est en 1931, elle meurt 9 ans après environ. Est-ce que c'est un moment particulier de sa vie, un moment charnière qui fait qu'elle se décide de compiler un petit peu toute son aventure et peut-être qu'elle pense à quelque chose?
Mais elle commence à l'écrire en 1928, elle est en exil. À l'époque où elle est en exil à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, c'était ce petit village dans le sud de la France. Il y avait aussi beaucoup d'artistes, beaucoup d'intellectuels qui venaient là, dans ce petit village, en particulier beaucoup d'artistes et d'intellectuels américains. Et en particulier, elle était très amie avec Peggy Guggenheim. C'était je crois que c'est la nièce de celui qui a fondé le musée Guggenheim à New York. Et Peggy Guggenheim, elle avait des amis qui étaient scénaristes, des réalisateurs de cinéma. Et qui disait à Emma Goldman, mais pourquoi ta vie est tellement incroyable, pourquoi tu n'écris pas tes mémoires? Ça, voilà, t'as connu tellement de monde et t'as tellement de choses à dire que ça ferait un très bon livre. Donc, c'est ça qui lui donne l'idée d'écrire son livre. Il faut dire aussi qu'elle avait besoin d'argent, puisqu'elle vivait, elle était en exil et qu'elle avait très peu d'argent pour subvenir à ses besoins. Donc, elle se dit effectivement, en fait c'est Peggy Guggenheim qui a levé des subventions, on dirait ça comme ça aujourd'hui, je crois c'est 5 000 $, parce qu'elle dit bon d'accord je veux bien écrire mais il faut de l'argent, que je puisse subvenir à mes besoins et que je puisse vivre voilà, pendant quelques années le temps que j'écrive ce livre. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle va décider d'écrire son livre et aussi elle espérait gagner de l'argent avec ce livre qui lui aurait permis d'assumer leur quotidien. Mais en fait, elle va gagner très peu d'argent avec. Voilà.
D'accord.
Mais elle écrit donc en quelque sorte sous contrat, on dirait quelque chose un peu ça,
oui.
Comme ça.
Oui. Sortons indemne de, et toi-même, sortons indemne de cette rencontre, de cette écriture, de cette lecture des mémoires d'Emma Goldman. Est-ce qu'on en sort indemne ou si on en sort changé, de quelle manière on en sort changé?
Ben, je trouve qu'on n'en sort pas indemne. Parce que c'est, en tout cas, on a passé 4 ans pour travailler dessus. Moi, à la fin, j'en avais marre d'Emma Goldman. Je n'avais pas envie de lire tous les textes qu'elle a écrits parce que j'en avais marre. Mais ce qui m'a bouleversée, en fait, c'est que, c'est ce que je dis à la fin d'ailleurs, c'est que les mots qu'elle utilise, c'est des mots extrêmement modernes. Et c'est une femme qui est tellement tourmentée, traversée par sa recherche de la liberté, d'essayer de vivre autrement, que ça nous traverse aussi. On était traversés quand on a travaillé chapitre par chapitre. Et chaque fois qu'on finissait un chapitre, c'est-à-dire c'est soit l'une qui traduisait, Jacqueline Royce qui traduisait et moi qui corrigeais, soit c'était l'inverse. Hein. Et à la fin de chaque chapitre, on se mettait ensemble et on lisait chaque chapitre. Et là, c'était le moment où on était sorti en quelque sorte de la traduction et on pouvait goûter en fait le plaisir de ce qu'on avait, voilà, de ce qu'on avait trouvé. Et on pouvait goûter ce qu'elle avait à nous dire. Et c'était toujours extrêmement, extrêmement poignant, extrêmement intéressant. Son humour, beaucoup d'humour. Donc je trouve qu'on n'en sort pas indemne. Moi, depuis que je fais les présentations, j'en sors pas trop indemne non plus. Parce que je rencontre beaucoup de gens. Et beaucoup de jeunes femmes en particulier qui viennent et qui sont intéressées par sa vie. Donc, bon, on cherche toujours un peu des exemples dans la vie. Bon, maintenant, les exemples, il faut les vivre dans le réel. Mais bon, mais voilà, ça reste quand même quelqu'un qui peut donner cette espèce de courage qu'elle a eu, de conviction qu'elle garde jusqu'au bout. Moi, je me la souhaite pour moi-même, personnellement.
Peut-on dire qu'elle est inspirante d'une certaine manière ?
D'accord. Ouais, absolument.
Très bien. Dis-moi, donc, c'est un livre qui fait combien de pages ?
Il fait, en français ?
Oui.
Il fait 1100 pages.
Voilà, c'est une somme, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Y a-t-il eu des choix cornéliens, des nœuds gordiens à trancher au moment où vous dites on pose ça sur le papier plutôt que ça, ou alors on prend tout ? Comment est-ce que ça s'est passé ?
Ah ben non, on a tout traduit.
On prend tout.
Ah non, non, mais nous on a rien coupé du tout.
Oui.
Ah non, là, ça pour nous c'est pour ça que moi personnellement, la première traduction qui s'appelle L'épopée d'une anarchiste, pour moi, c'est quelque part, c'est une trahison d'Emma Goldman. Pour moi, c'est une trahison.
Ouais.
Les traductrices le disent elles-mêmes. Hein. Elles disent c'est une adaptation. Elles le disent d'ailleurs. On a trahi Emma Goldman. Elles le disent. Moi, je trouve que c'est une trahison. Non, non, nous, on a absolument tout gardé. On peut vérifier la version originale avec notre version française. Mais non, c'est la façon d'écrire qui peut être... Bon, évidemment, c'est une traduction. C'est toujours une trahison par rapport au texte original. Mais non... Tout ce qu'elle écrit, on l'a traduit.
Voilà, mais c'était à ça que je voulais en venir. C'était qu'il y a cette méticulosité et cette volonté vraiment d'être exhaustif. Voilà.
Bien sûr.
Très bien, très bien. Alors, deux petites questions encore, et puis ensuite on ira manger la soupe ou quoi, si tu veux bien. Oui. Deux sujets qui ont été à peine abordés là pendant la discussion. Évidemment, on peut pas tout aborder, mais que tu as explicité un peu plus, que j'aimerais bien que tu l'expliques au micro, puisqu'avant on n'a pas évidemment pas enregistré les personnes qui s'exprimaient. Concernant la position d'Emma Goldman sur la propagande par le fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que l'autocritique est possible, qu'on est loin du dogmatisme. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, j'aurais voulu savoir, peut-être cette question n'est-elle pas pertinente et on la balayera. Pourrait-on dire d'Emma Goldman qu'elle est quelque part très, très en avant sur son temps? Elle est dans ce qu'on appellerait maintenant l'intersectionnalité des luttes. Est-on elle-même une femme? Est-on elle-même juive? Est-on elle-même prolétaire? Donc, elle cumule d'une certaine manière ce que la société désignait comme des tares. Et donc, elle cumule le fait de prêter le flanc. Et de ce point de vue-là, s'est-elle exprimée par rapport à son judaïsme, où cela est absent de son propos, et s'est-elle exprimée par rapport au Canada, ou aux États-Unis, aux populations autochtones, ou aux personnes de couleur, par exemple ?
Ouais. Deux questions qui sont revenues souvent dans les présentations.
J'imagine. Ouais.
La question par rapport
propagande.
Au judaïsme.
Alors, propagande, enfin, comme tu veux.
Propagande par le fait, qu'est-ce que tu veux savoir ?
Alors, voilà, qu'en est-il de la propagande par le fait ? Et là, c'est vrai qu'on précise que ça nous donne l'image d'une personne qui n'est pas statique, qui n'est pas dogmatique, mais qui, justement, est capable d'autocritique.
Voilà, elle et Bergman, ils n'étaient pas en soi des défenseurs en soi, à tout craint de la propagande par le fait, mais n'empêche que quand les événements font qu'ils peuvent, à ce moment-là, faire un acte, un attentat contre ce patron d'usine, ils décident de le faire. Et c'est vrai qu'ils étaient, à cette époque-là, avec Johan Most, donc, qui était un des mentors d'Emma Goldman, était lui un propagandiste de la propagande par le fait. Il avait même écrit un livre sur comment fabriquer de la nitroglycérine, qui va servir d'ailleurs à Bergman pour faire sa bombe. Évidemment, ça va pas marcher. Mais donc ils étaient à l'époque, elle en tout cas était à l'époque d'accord avec le fait de commettre un acte de ce type. Mais ensuite, quand elle a vu les résultats, c'est-à-dire qu'ils ont commis cet acte en se disant, il y avait eu des violences absolument terribles contre les ouvriers à l'époque, et ils pensaient que donc ce fric là, il était haï par les ouvriers, et que du coup, comme ils allaient tuer le fric, ben, ça allait développer la propagande anarchiste en direction des ouvriers. Voilà. Mais quand elle s'est rendue compte que, en fait, les ouvriers pensaient Comme l'attentat est raté, les ouvriers ont pensé que Bergman l'avait fait pour se faire de la publicité, pour faire de la publicité Afrique. Ça, c'est absolument, c'est affreux. Et donc, ils n'avaient rien compris, quoi. Et là, elle s'est sentie, mais elle s'est dit, mais là, ça a servi absolument à rien, quoi, ce qu'on a fait. Donc là, elle a commencé à remettre en question la question de la propagande par le fait que ça servait à rien. Enfin, que ça servait à rien. Qu'elle comprenait les gens qui pouvaient le faire, mais et qu'elle les soutiendrait face à la répression, mais qu'elle-même, elle pensait que c'était un acte, voilà, qui n'avait pas une utilité sociale. Contrairement à Bergman, qui a longtemps soutenu que c'était un acte qui avait une nécessité sociale. Voilà. Voilà.
Merci pour toutes ces précisions.
Et le judaïsme.
Concernant l'intersectionnalité, alors le judaïsme, et ainsi que y aurait-il des rencontres qu'elle aurait fait avec des populations autochtones, des figures comme ça ou des personnes de couleur?
Ben, sur la question du judaïsme, en fait, elle était comme beaucoup de juifs à l'époque qui croyaient d'abord avant tout à la lutte ouvrière. Ils se considéraient pas juifs. Ils venaient de culture juive, ils venaient de famille juive, ils étaient dans la tradition, enfin, ils avaient été élevés dans la tradition juive, mais ils se considéraient pas comme juifs, ils se considéraient avant tout comme ouvriers. Pour elle, ça n'a jamais été une question. Elle parle pas mal des pogroms quand elle est en Russie, hein, des pogroms contre la population juive, elle est évidemment révoltée contre ça.
Oui, parce qu'on va le préciser, on l'a pas dit, mais elle naît à Kaunas.
Elle naît à Kaunas, en Lituanie.
En Lituanie.
D'une famille juive lituanienne. Ouais. Voilà. Donc elle venait vraiment d'une famille juive. Son père est d'une famille juive traditionnelle. Son père, elle avait voulu la marier à l'âge de 15 ans. Donc elle était vraiment partie aux États-Unis pour fuir son père et pour fuir les traditions de la religion juive. Mm-hmm. Donc elle ne s'est jamais positionnée en tant que juive. Oui. C'était sa culture au niveau alimentaire, au niveau de la langue, au niveau d'un cerveau. Voilà. Mais elle connaissait le yiddish et tout ça, mais pas plus que ça. Mm-hmm. Mais comme beaucoup de monde à l'époque.
Absolument.
Voilà. Donc. Donc elle ne se réclamait pas particulièrement de son judaïsme. Voilà. Mmh. Et maintenant, concernant la population noire, c'est toujours intéressant parce que donc j'ai lu pendant le paragraphe où elle parle de son des chapitres sur la prison, où elle est en contact avec évidemment les détenus les plus pauvres, qui ont les conditions les plus misérables, qui sont une grande partie des co-détenus noirs, avec qui elle a toujours un grand rapport de solidarité. Mais elle-même, à l'extérieur, en fait, elle a eu elle s'est pas intéressée à la question noire. C'est intéressant de le noter.
Oui, tout à fait.
Parce que Sylvia Pankhurst, dont vous allez parler, il va y avoir une autre présentation plus tard, elle va aller aux États-Unis et elle va vraiment s'intéresser à la question noire. Mais parce qu'on peut dire qu'à l'époque, ce qui était pour elle, le milieu dans lequel vivait Emma Goldman, c'était le milieu de la classe ouvrière immigrée. À New York. Et donc, c'était plutôt le milieu qui venait, d'Allemagne, une classe ouvrière qui venait d'Allemagne, de Scandinavie, tout ça, c'était une classe ouvrière immigrée. Il n'y avait pas beaucoup de noirs à l'époque qui étaient employés dans le monde industriel. Donc, elle n'a pas eu accès. Pour elle, c'était pas. La question la plus importante, c'était la question de la lutte de classe, la lutte ouvrière.
Oui, oui, oui.
Elle a eu très peu de contacts avec donc des éléments radicaux noirs. Non, elle n'a pas de contact.
Très bien.
Voilà, elle passe dessus.
Bah, ouais, c'est comme ça.
C'était pas une femme parfaite, c'est bien.
Bien, absolument. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Je te remercie déjà beaucoup, Laure Battier, d'avoir pris du temps après avoir fait toute la présentation et tout et tout. Ça fait beaucoup d'énergie, tout ça. Voudrais-tu peut-être nous suggérer quelques sites internet? Peut-être en as-tu un personnel ou quelques films ou quelques petites pépites comme ça que l'on serait avisé d'aller débusquer pour mieux connaître Emma Goldman, sa vie, son œuvre.
Donc, il y a eu maintenant beaucoup de textes qui sont publiés dans l'internet, beaucoup de traductions, de lettres, de textes qu'elle a fait et qui se trouvent dans un site, je n'ai pas le truc exact, mais si on tape anthologie Emma Goldman, on va le trouver. Je crois que c'est anthologie WordPress Emma Goldman. Voilà, ça, maintenant c'est un site qui a été, avant il y avait plusieurs sites, maintenant il a été, tous les documents qui concernent Emma Goldman en français sont sous ce site-là. Donc, anthologie Emma Goldman, faut le trouver. Voilà,
oui, nous, on mettra au libellé du podcast, de toute façon, les liens, on va le trouver.
Voilà. Donc, ça, c'est le site internet. Il y a, pour ceux qui lisent l'anglais, donc, il y a la fondation Emma Goldman Papers qui a mis en ligne tous ces documents. Mm-hmm. Donc, ils sont facilement trouvables aussi pour ceux qui lisent l'anglais. Au niveau des films, bah, y a ce film extrêmement poignant sur les funérailles de Kropotkine, qui est dans YouTube. Il suffit de taper dans YouTube funérailles de Kropotkine. Voilà, ça dure 11 minutes et on le trouve. Il y a ce tout petit interview qui dure 2 minutes d'Emma Goldman en 1934 quand elle arrive aux États-Unis, où on la voit, voilà, en fait, et elle parle. Donc. Voilà, donc, mais qui est en anglais. Ben voilà, c'est déjà
très bien.
Je crois, pas mal.
Donc il existe une fondation, et on va en terminer, à moins que des questions surgissent, mais on va en terminer avec ça. Une fondation Emma Goldman existe.
Emma Goldman Papers.
D'accord, et donc elle est située aux États-Unis.
Elle est située à Berkeley, aux États-Unis.
D'accord.
La fondatrice, c'est Candace Falk, F-A-L-K, voilà, et qui a consacré, je crois, 30 ans de sa vie à rassembler en fait tous les documents d'archives qui concernent Emma Goldman. Donc il y a des rapports de police, il y a des articles de journaux, il y a de la correspondance, enfin voilà, tout ce qu'elle a pu trouver, que les flics avaient piqué à Emma Goldman, puisqu'on lui avait piqué toutes ses archives. Ben, elle a fait tout un énorme travail, voilà. Et donc maintenant, ces archives sont en ligne, donc ça, c'est voilà,
oui.
On peut les consulter.
Et puis une chose dont tu as parlé tout à l'heure, c'est Nowhere at Home, échange épistolaire entre Emma Goldman et Alexandre
Berkman,
pardon, merci, qui est disponible et trouvable en anglais seulement, mais ouais. Trouvable tout de même.
Ben, il est trouvable, il faut le commander. Non, il n'est pas trouvable dans les librairies.
Non, hein. D'accord.
Non, il faut vraiment vouloir pour le trouver. Je sais que quand on est aux États-Unis, nous, c'est un ami qui a pu nous le procurer parce qu'il a commandé par Internet, donc on doit pouvoir le trouver. Mais il n'est pas ouais. Si facilement trouvable que ça. Comme Emma Goldman, comme son autobiographie, Living My Life, c'est pas si trouvable que ça dans les librairies aux États-Unis. C'est ça qui est incroyable.
Donc là, il y a un travail à faire.
Mais aux États-Unis, c'est très difficile. Hein. Mm-hmm. C'est pas facile, en tout cas.
Bon, ben, au moins, ils existent. Et puis maintenant, effectivement, il y a un travail à faire pour, propager encore... ces exemplaires et ces écrits.
Ouais.
Merci beaucoup Laure Battier. L'autobiographie, c'est Vivre ma vie, une anarchiste au temps des révolutions. Merci pour tout ce travail. Et puis, eh bien, bonne continuation.
Eh ben, merci beaucoup pour m'avoir invité. C'était
avec plaisir.
Pour en terminer
complètement, s'il fallait en quelques mots clés dire qui était pour toi, qu'est-ce qu'elle représente pour toi. Emma Goldman, en quelques mots, quel mot est-ce que tu utiliseras ? Serait-ce des mots tels que...
La passion.
La passion, très bien. Y en a-t-il d'autres où la passion, c'est vraiment ce qui l'habitait, selon toi, le plus durablement et tout ?
Et la recherche de la liberté.
Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ce sera les mots de la fin. Merci beaucoup et à une prochaine. Ciao.